Jean Dubovetsky, bien le bonjour.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Vous êtes médecin à Albi dans le quartier de Cantepo. Nous vous recevons pour la troisième fois sur les ondes de Radio Albigès, car nous avons souhaité faire écho aux articles de votre blog Antiknock. L'objectif de ce blog, c'est informer sur la médecine dans le seul intérêt des patients. Pour y parvenir, le blog Anti-Docteur Knock doit lutter contre l'irrationnel, les idées reçues, la surmédicalisation, garder son indépendance d'esprit, se méfier des influences des laboratoires pharmaceutiques et des lobbies de toutes sortes, refuser tout conflit d'intérêt, s'intéresser à la société, à l'histoire, à la psychologie, aux méthodes scientifiques et même à la littérature afin qu'elle nous éclaire sur la médecine et garder un regard humain sur les souffrances humaines. Pour nous situer un peu dans le temps, pour nos auditeurs et auditrices, nous enregistrons cette émission début avril 2022. Première question évidente pour vous, docteur, comment allez-vous ?
Eh bien écoutez, je vais très bien. Voilà, le printemps est revenu, il y a du soleil et c'est très joyeux.
Alors les agences du médicament américaines et européennes sont en principe tenues à la transparence de leurs décisions, mais elles tentent parfois d'y échapper, surtout lorsque les pressions économiques et politiques sont fortes. Les vaccins Covid en donnent un exemple, c'est l'introduction de l'un de vos articles, pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Oui, alors normalement, les grandes agences du médicament occidental, la FDA, qui est l'agence américaine, l'EMA, qui est l'agence européenne, et puis l'agence française du médicament, sont tenues à la transparence. C'est-à-dire que leurs décisions doivent être argumentées et les arguments doivent être publics. Donc, ces agences doivent publier les données sur lesquelles elles s'appuient pour prendre leurs décisions. Et elle devrait aussi publier les discussions qui ont eu lieu et de préférence, alors là toutes les agences ne le font pas, mais de préférence, elle devrait indiquer si les décisions ont été prises à l'unanimité ou à la majorité et s'il y a eu une minorité, ce que disait la minorité. Voilà, donc ça ce serait la transparence idéale. Dans les faits, eh bien, par exemple, pour ce qui concerne... L'agence américaine, on va taper sur les gens qui sont le plus loin. Pour ce qui concerne l'agence américaine et les vaccins Covid, des scientifiques ont demandé à la FDA les données sur lesquelles elle s'était appuyée pour autoriser le vaccin Pfizer, par exemple. Et l'agence a répondu oui, absolument, nous allons vous répondre. Et alors, comme on ne peut pas tout faire d'un coup, on va publier petit à petit les données. Grosso modo, il nous faudra 50 ans pour vous répondre. Alors, les scientifiques de plusieurs pays ont porté plainte en demandant que la FDA soit condamnée à faire plus vite que ça. Et là, la FDA a changé d'attitude devant les juges. Elle a dit non, 50 ans, ce n'est pas assez, il nous faut 75 ans. Alors, le juge s'est fâché. Et il leur a donné quelques mois pour publier les quelques dizaines de milliers de pages quand même, quelques dizaines de milliers de pages de documents qu'ils avaient en stock et qui expliquaient leur décision. Cela étant, le juge en même temps a estimé que la FDA était en droit de faire un peu de caviardage, c'est-à-dire de passer du noir ou du blanc pour qu'on ne puisse pas lire certains passages qui auraient nuit aux intérêts industriels, c'est-à-dire aux secrets industriels. Donc dans l'esprit des agences du médicament, il y a toujours un combat entre les intérêts industriels, le secret industriel, qui évite que d'autres industriels ou des concurrents copient ou réutilisent des données, et les intérêts du public, l'intérêt du public étant qu'on doit savoir vraiment quelles sont les données réelles pour que d'autres personnes que les agences puissent les synthétiser et donner un avis éventuellement discordant. Donc voilà, ça c'est un exemple. Alors maintenant, quand on est condamné à publier 50 000 pages en quelques mois, on n'a pas le temps non plus de caviarder dans le détail. Je pense que c'est ce qui motivait pour l'essentiel la volonté de la FDA d'étaler dans le temps la publication.
Alors comment on pourrait faire, que faudrait-il faire pour éviter justement de telles aberrations, toute cette logique complexe ?
Oui, la question c'est savoir comment on arbitre entre le secret industriel qui a une certaine utilité, Hein, c'est comme, si vous voulez, le secret industriel, c'est un petit peu comme, comme quelqu'un qui écrit un livre. Si quelqu'un lui copie son livre et le plagie, et puis ben voilà, il ne vend pas son livre parce que quelqu'un d'autre l'a copié, c'est pas juste. Donc on peut comprendre qu'il y ait un secret industriel, mais il ne faut pas que ce secret interdise de donner au public et aux professionnels de santé les informations qui sont nécessaires. Par exemple, si on dit ah ben tel médicament a provoqué des effets indésirables graves et il y a eu 4 morts. Bon, mais que on dit le nombre de boîtes de médicaments vendues est un secret industriel. On ne sait pas s'il y a eu 4 morts sur 40 boîtes vendues ou 4 morts sur 50 millions de boîtes vendues. Et ce n'est pas du tout pareil. Donc il y a un moment où le secret industriel et la nécessaire transparence des données sont contradictoires. Et j'ai bien peur que les agences du médicament arbitrent souvent en faveur des industriels.
Merci Jean Dubovetsky.
C'est ça, Dubovetsky. C'est un nom descriptif, vous savez, pour vous en rappeler, doux, beau, exquis.
Un autre article traité sur votre blog anticnoc.fr, la loi de mars 2022 qui améliore l'accès des femmes aux IVG. Que contient cette loi et qu'améliore-t-elle ?
Alors pour l'essentiel, cette loi prolonge le délai pendant lequel on peut pratiquer une IVG de 2 semaines. Donc le délai passe de 12 à 14 semaines. Il prolonge le délai pendant lequel on peut pratiquer une IVG médicamenteuse à son domicile. Donc c'est un délai qui est augmenté de 2 semaines lui aussi. Voilà. Et le troisième point, c'est qu'il permet de faire des IVG médicamenteuses à domicile par téléconsultation. Alors, ça peut présenter un avantage pour les gens qui sont un peu isolés et pour les gens qui ont du mal à trouver un praticien qui fait les IVG médicamenteuses à domicile. Donc, il y a des endroits où la population est bien couverte. C'est le cas à Albi, hein. À Albi, autant que je sache, il y a à l'hôpital, il y a le planning familial. Et puis, il y a une gynécologue, une sage-femme et 3 généralistes qui pratiquent les IVG médicamenteuses à domicile. Donc, on arrive toujours à trouver quelqu'un, d'autant plus qu'ils s'entendent pour se faire un tour de rôle pendant les vacances. Donc, on arrive toujours à trouver quelqu'un en téléphonant au planning familial. Le planning familial vous dit où chercher et là, il n'y a pas de difficulté. Mais il y a des endroits, il y a des villes où il n'y a aucun praticien qui le fait. Voilà. Ou bien où le premier praticien qui le fait est à 50 km. Et ça pose des problèmes de sécurité parce que le risque essentiel d'une IVG médicamenteuse à domicile, c'est un saignement excessif et il faut pouvoir être hospitalisé assez rapidement dans un service de gynécologie qui soit au courant de l'IVG en cours. Donc, quand on est dans un désert médical, ça pose problème. Là, du coup, le fait de pouvoir faire ça par vidéo, par téléconsultation, c'est un avantage quand même, hein. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut être important dans certaines zones.
Encore faut-il être équipé d'Internet et d'un ordinateur et de tout ce qui va avec. On pense bien sûr à des zones rurales très éloignées.
Alors, Internet, oui, ou le téléphone. Hein, maintenant, il y a des téléphones avec des applications qui peuvent permettre. Il y a des applications cryptées par téléphone. Le médecin peut éventuellement recevoir sur son ordinateur s'il le préfère, mais la personne, elle, peut utiliser un téléphone portable assez banal pour sa téléconsultation.
Alors concrètement, si la loi continue le combat des milliers de femmes et de Simone Veil, qui a fait voter en 1975 la première loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse en France, est-ce que l'information sur ces droits est bien établie sur le territoire et est-ce qu'il ne reste pas des clientes inégalités d'accès à l'IVG ?
Alors il y a sans aucun doute des cas d'inégalité d'accès à l'IVG. Hein. Il y a des... Il y a des professionnels qui sont opposés à l'IVG et qui ne transmettent pas bien les informations. Il y a des gens qui ont du mal à trouver l'information. Alors, dans la loi, il devrait y avoir normalement une recension de tous les endroits et de tous les praticiens qui font des IVG. Et ça devrait être publié, donc notamment sur Internet, de façon à ce que les femmes puissent trouver facilement. Alors, on a un petit avantage en Occitanie. Il y a une association qui s'appelle REIVOC, R-E-I-V-O-C, dont vous pouvez chercher sur Internet, REIVOC. Vous mettez REIVOC et IVG, et vous allez trouver un site où notamment sont indiqués tous les endroits où on peut pratiquer une IVG, qu'elle soit médicamenteuse ou instrumentale. Et cette liste est mise à jour régulièrement et elle est tenue à jour pendant les congés. C'est-à-dire que l'été, par exemple, qui est un moment où il est difficile de trouver des gens qui font des IVG à certains endroits, eh bien, c'est noté. Cet endroit est ouvert, cet endroit est fermé. Voilà. Maintenant, il n'y a pas le même service dans toute la France.
Donc, le site REIVOC, sur Internet. Alors, qu'en est-il de la clause de conscience ? Pouvez-vous nous en dire, pouvez-vous nous dire ce qu'elle représente et quelles conséquences elle peut avoir à l'IVG ?
Ben ça, c'est une curiosité. C'est une curiosité parce que, dans la réalité, les professionnels de santé ont toujours une clause de conscience. C'est-à-dire qu'un professionnel de santé a toujours, de manière systématique, le droit de refuser quelque chose qu'il estime contraire à sa conscience. Par exemple, quand des patientes un jour m'ont demandé un médicament célèbre pour perdre du poids, qui s'appelait Mediator, eh bien, je leur ai répondu que ce médicament, je ne le prescrivais jamais parce que je le considérais comme dangereux. Et elles sont allées voir quelqu'un d'autre qui, je suppose, leur a prescrit. Donc, ce droit qui est un droit général s'applique aussi à l'IVG. Et pour une raison que je pense purement symbolique, hein, la loi a rajouté un droit spécial c'est-à-dire que les praticiens ont le droit de dire que, pour leur conscience, ils peuvent refuser l'IVG. Droit qu'ils avaient donc de toute façon. Hein. Alors, cette insistance sur le droit de ne pas pratiquer les IVG à quelque chose d'inutile, et donc c'est essentiellement cosmétique, moi je dirais.
Merci bien, docteur Jean Dubovetsky. Je vous propose une pause musicale avec la chanteuse Anne Sylvestre et le titre « Non, tu n'as pas de nom ».
Tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre. Si ce n'était pas un piège, ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre. Que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste, depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non, non. Supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive, mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite, mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien vient de la chance. Ceux qui croient que ça se pense, ça se hurle, ça se souffre. C'est la mort, c'est le gouffre, c'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche, c'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Anne Sylvestre avec le titre Non, tu n'as pas de nom, toujours branché sur Radio Albijazz pour cette émission avec le docteur Jean Dubovetsky, l'émission spéciale docteur Antique Nox. Alors on va continuer notre émission pour parler d'un article qui paraît dans votre blog. Il est question d'eau, de terre et de rhinocéros. Vous développez dans cet article l'idée que si des traitements naturels et traditionnels peuvent avoir des effets, il y a des voies de garage à éviter.
Oui, en fait, on entend souvent un argument qui est que si des gens ont cru en quelque chose pendant longtemps et s'ils ont été nombreux, c'est sûrement vrai. C'est un argument qui est douteux. Par exemple, pendant très longtemps, et encore maintenant dans certains endroits, on pense qu'en cas de diarrhée, si on perd beaucoup d'eau, eh ben pour avoir moins de diarrhée, le mieux c'est de moins boire. Eh bien voilà une idée qui est non seulement fausse, mais dangereuse, puisqu'elle accélère la déshydratation et elle peut aggraver la maladie. Dans le même domaine, il y a des peuples entiers qui, pendant des siècles, ont pensé qu'au moment de la naissance, quand on coupe le cordon ombilical de l'enfant, c'est bien de mettre de la terre dedans, parce que d'une part, ça étanche le saignement, et d'autre part, ça reconnecte avec notre mère, la terre. Ça a été à l'origine d'infections graves des enfants et d'un certain nombre de septicémies et de morts. Et pourtant, ces deux pratiques ont perduré pendant des siècles. Alors, il y en a d'autres, hein, qui perdurent encore, qui ont peut-être moins de conséquences pour les humains, encore que... il y a le cas de la corne du rhinocéros. La corne du rhinocéros, c'est fait de chitine, c'est fait de la même chose que nos ongles. Voilà. Donc, c'est comme si on se rongeait les ongles quand on mange de la poudre de corne de rhinocéros, et ça n'a absolument aucun effet sur les capacités d'érection et l'impuissance éventuelle masculine. Et pourtant, les rhinocéros sont en voie de disparition à cause de cette légende et de l'utilisation de la corne de rhinocéros par la médecine chinoise ou plus largement orientale. Alors c'est au point que, quand j'ai visité il y a quelque temps le Muséum d'histoire naturelle de Paris, il n'y a plus de corne de rhinocéros exposée. On n'y expose que des moulages pour éviter qu'ils soient volés. Voilà. Donc voilà trois exemples qui montrent bien que on peut croire quelque chose, être très nombreux à le croire, et le croire pendant très longtemps, et se tromper. Et c'est vrai en médecine, comme dans d'autres domaines, évidemment, hein, en physique, en chimie, en toutes sortes de domaines. Ce que j'en conclus, c'est que quand on a de bonnes raisons de penser qu'une thérapeutique naturelle, par exemple, est efficace, eh bien, on devrait faire des recherches et faire des essais corrects, comme pour n'importe quel autre médicament, et le démontrer. Le problème, évidemment, c'est que ça n'est l'intérêt financier de personne. Et donc, on aboutit à la conclusion que ce qui serait l'intérêt du public, ce serait que beaucoup plus de recherches médicales et pharmaceutiques soient d'origine publique et non pas uniquement privée. C'est bien qu'il y ait des recherches privées, hein, c'est dynamique, c'est efficace. On peut penser que... par exemple, la recherche de vaccins contre le Covid a été plus efficace parce qu'elle était en grande partie libre et que les entreprises ont pu faire ce qu'elles voulaient pour chercher. Et ça a finalement mieux marché dans les pays occidentaux que en Chine et en Russie. En Chine et en Russie, il y a des vaccins, mais qui marchent plutôt moins bien, hein, d'après les données dont on dispose, que les vaccins occidentaux. Maintenant, ça c'est une chose, mais il y a des tas de domaines où on a besoin de recherches complexes, onéreuses, et qui ne sont l'intérêt d'aucun laboratoire. Alors c'est le cas, dans des tas de domaines. On peut citer la psychothérapie, la kinésithérapie, la chirurgie. Il y a des tas de domaines dans lesquels ce n'est pas le médicament qui est le plus important, et par conséquent, ces domaines sont mal explorés, mal étudiés, faute de moyens financiers.
Allez, dans un article de votre blog Anti-Knock, il est question de déclarations publiques, de liens d'intérêt, et on peut y lire ceci. De nombreux médecins interviennent publiquement, oralement ou par écrit, comme enseignants ou dans la presse, pour parler de médicaments ou plus largement de traitements. La loi française leur impose de faire connaître leurs liens d'intérêt au public, mais qui s'en soucie ? Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est un lien d'intérêt et quel problème cela peut poser ?
Eh bien, si, par exemple, vous êtes payé par un laboratoire pharmaceutique pour mener des recherches ou simplement pour donner des cours, mais des cours payés par le laboratoire à d'autres médecins, et que vous gagnez pas mal d'argent comme ça, vous aurez des difficultés à dire du mal des médicaments de ce laboratoire. Donc voilà un cas précis où les liens d'intérêt changent beaucoup ce qu'un médecin peut dire en public. Alors que ce soit au moment du cours qu'il fait pour des étudiants ou pour des médecins, ou que ce soit lorsqu'il intervient à la télévision, à la radio, dans des journaux, ou lorsqu'il écrit des livres. Et donc la loi, depuis des années et des années, la loi oblige normalement tous les médecins qui parlent de médicaments à indiquer leur lien d'intérêt au début de leur intervention, lorsque c'est une intervention orale, et au début de leur texte, lorsque c'est de l'écrit. Et la question que je vous pose, c'est combien de fois avez-vous vu cette loi respectée ?
Bonne question.
Eh bien moi, presque jamais, sauf par des gens qui n'ont justement aucun lien d'intérêt. C'est-à-dire que toutes les fois où ce serait intéressant, eh bien, ça n'est pas appliqué. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est pas étonnant que ce soit pas appliqué, puisque, en théorie, c'est le Conseil de l'Ordre des médecins qui est chargé de faire appliquer ce texte. Et le Conseil de l'Ordre des médecins a décidé qu'il le ferait appliquer quand il recevrait des plaintes. Et des plaintes, il n'en reçoit pas beaucoup. Moi, j'ai connaissance de très peu de cas de condamnation. En cherchant sur Internet, j'en ai trouvé un cas où la personne a été blâmée. Alors blâmée, c'est-à-dire qu'on lui dit « Oh monsieur, c'est pas bien, ne recommencez pas ». Ce qui est une condamnation grave, vous le reconnaîtrez.
Quand il ne risque qu'un rappel à la loi, pas plus. Ou s'il y a après de nouveau un conflit d'intérêts, peut-être la sanction pourrait être plus lourde.
En théorie, les sanctions peuvent être graduées par le Conseil de l'Ordre. Donc il y a le blâme, ensuite il y a la suspension d'exercice pour quelques jours, avec sursis, puis sans sursis. Voilà, ce sont les condamnations les plus fréquentes.
Alors vous parlez de l'ordre des médecins. De qui est constitué cet ordre des médecins ?
Alors il est constitué de médecins élus par les autres médecins, voilà. Alors cela étant, il y a parmi les gens qui siègent dans les conseils de l'ordre, des gens très dévoués et très honnêtes, hein, c'est pas la question, mais... ils sont débordés par les tâches qui leur sont confiées, ils ont peu de moyens, et deux, ils n'ont... C'est pas un sujet qu'ils ont considéré comme prioritaire, voilà, à l'évidence.
Qu'est-ce que cette crise du Covid-19 nous aura apporté, renseigné sur ce sujet ? Est-ce que justement l'Ordre des médecins a réagi ? Est-ce qu'elle a bien fait son travail ?
L'Ordre des médecins a réagi dans certaines circonstances et... Alors là, honnêtement, moi, j'ai rien vu de changé, particulièrement avec la crise Covid. C'est-à-dire que les cas dont l'Ordre des médecins s'est saisi sont des cas qui avaient déjà fait beaucoup de bruit et dont il était difficile de ne rien dire. Voilà. Je n'ai pas vu l'attitude de l'Ordre des médecins changer fondamentalement avec la crise Covid, non. Enfin, je ne crois pas.
Merci Jean Dubovetsky. Je rappelle que vous êtes médecin à Albi dans le quartier de Cantopo et auteur du blog anti-knock.fr. Un mot à rajouter pour terminer cette émission ?
Oui, alors anti Knock-du-6, knock.fr. Merci à tous.
Allez, cette émission a été enregistrée début avril 2022 et nous espérons vous voir à nouveau sur nos ondes pour une quatrième rencontre autour de vos articles. On remercie Wilfried Kroos pour la préparation de cette émission. Merci, au revoir.
Merci, au revoir. We'll be right back.